Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de revoir un amphithéâtre avec du monde dans l'amphithéâtre. Les cours de ces deux dernières années, ils se sont faits en mode virtuel, en mode immatériel, comme on dit maintenant, et ce n'était vraiment pas la même chose. Donc, c'est un plaisir d'être ensemble dans la même salle et de pouvoir ensemble discuter, réfléchir. C'est vraiment un plaisir. Évidemment, ce plaisir-là, il est occulté quand même d'une certaine manière par ce qui se passe en Europe de l'Est. Je crois qu'on ne peut pas passer sous silence l'effroi, je sais pas, l'incompréhension, la colère de ce qu'on voit en ce moment. Et cette agression qui vraiment n'a, enfin, sans aucune justification rationnelle, ça nous laisse tous désemparés. Et on peut se dire que c'est un peu dérisoire de faire de la science à ce moment-là. On peut aussi se dire que finalement, exercer son raisonnement, c'est peut-être une manière de lutter contre cette irrationalité qu'on voit se manifester. On va faire de la physique. Voilà. Le cours de cette année, il va suivre la structure habituelle des cours, c'est-à-dire une séance de cours d'une heure et demie, de 9h30 à 11h, et puis suivie par un séminaire. Là, j'ai mis la liste des prochains séminaires. Le premier, qui sera donc tout à l'heure, sera donné par Takis Kontos, qui va nous parler de circuits quantiques hybrides, de mécanique quantique sur des dispositifs de matière condensée. Le séminaire de la semaine prochaine, malheureusement, est compromis. J'ai eu un mail hier soir de Matthias Weidemüller qui m'a dit qu'il a attrapé le virus qui fait qu'on ne s'est pas vu l'année dernière. Il a l'air d'être affecté assez sévèrement, donc il n'est pas du tout sûr de pouvoir venir. Je lui ai proposé de le faire en Zoom, c'est-à-dire que la salle sera là et puis il nous parlera en Zoom. Il ne m'a pas répondu encore, donc je ne sais pas si ça va se faire. On verra ce qu'on fait. Je vous tiendrai au courant via le courrier électronique, de toute façon. Et puis ensuite, on aura un séminaire de Jean-Philippe Brantu qui nous parlera d'expérience avec des gaz de Fermi. Et ensuite, le quatrième, il y en aura d'autres après, mais le quatrième sera donné par Anna Mingoudi, qui, elle, c'est une théoricienne qui nous parlera de gaz quantique à une dimension. Voilà. Et puis, je vous donnerai la liste complémentaire un peu plus tard, mais de toute façon, vous pouvez la trouver si vous êtes intéressé sur la page du cours. Est-ce qu'il faut que j'éteigne ? Est-ce que vous arrivez à bien voir ou c'est mieux si j'éteins ? Je peux éteindre et puis je rallumerai quand j'aurai besoin d'utiliser le tableau. Voilà. Le cours de cette année donc, est consacré aux interactions entre atomes dans les gaz quantiques. Et j'ai mis comme sous-titre de 2 à n corps. Alors, qu'est-ce que j'entends par là, de 2 à n corps ? Bien, le plus simple pour l'expliquer, c'est peut-être de se ramener 150 ans en arrière, presque 200 ans en arrière, qui est ce qui s'est déroulé en thermodynamique au 19e siècle, qui est ce lien qui a été établi, si on peut dire, entre microscopique et macroscopique. On ne comprenait pas encore très bien le microscopique à l'époque, mais néanmoins, ce lien a pu être établi. Alors ici, vous avez des photos de deux physiciens, Clapeyron et Van der Waals. Clapeyron, je dirais, c'est la loi macroscopique de base. C'est la loi macroscopique des gaz parfaits, PV égale NKBT. Alors évidemment, il ne l'a pas écrite comme ça parce que la constante de Boltzmann n'existait pas en 1834, mais bon, il utilisait des moles et des nombres d'Avogadro. En tout cas, il avait cette relation de proportionnalité entre la pression fois volume et température. Celle-là, je dirais, c'est une loi macroscopique pour laquelle les lois microscopiques sous-jacentes sont pratiquement inexistantes puisqu'il s'agit de particules sans interaction, sans taille effective, ni rien. Donc le premier à avoir vraiment fait un pas dans ce lien macroscopique-microscopique, eh bien, c'est Van der Waals, qui, donc, une quarantaine d'années après Clapeyron, dans sa thèse, propose une loi pour ce qu'il appelle des gaz réels. Donc c'est une loi pour laquelle... c'est mieux comme ça, peut-être. C'est une loi pour laquelle donc, il introduit un paramètre petit a' ici, un paramètre petit b' ici, qui vient corriger la loi PV égale NKBT, et il donne une interprétation à ces paramètres A' et B'. Et cette interprétation, c'est donc que A', c'est là pour décrire les interactions entre particules, et en particulier les interactions qu'on appelle maintenant interactions de Van der Waals, c'est-à-dire les forces à longue portée entre des atomes neutres ou des molécules neutres. Et puis B', ici, c'est une quantité qui va donc venir réduire le volume accessible. Le volume accessible n'est plus V, mais V moins N fois B'. Et c'est donc le volume occupé par chacune des molécules du gaz, considérée comme une sphère dure, une sphère impénétrable. Voilà, donc ça c'est un premier pas dans un lien possible entre monde microscopique et monde macroscopique. Et ce premier pas est vraiment très fructueux. Hein. Je ne vais pas faire toute la théorie ici de l'équation d'état de van der Waals, ce n'est pas l'objet, mais je vous rappelle par exemple le fait qu'on peut avec ça très bien comprendre, au moins qualitativement, une transition liquide-gaz. Un moyen de le faire, c'est de regarder ce qu'on appelle des réseaux de courbes isothermes, c'est-à-dire je me mets à température donnée et je trace la pression en fonction du volume en utilisant l'équation que je vous ai donnée à la diapositive précédente. Et au moins à basse température, eh bien, ces courbes, elles ont l'allure qui est représentée ici. Voilà, donc ce sont des courbes non monotones, avec une partie ici qui est extrêmement raide. Et cette partie très raide, ça signifie que pour faire un tout petit changement de volume ici, il faut appliquer une différence de pression colossale. On a donc un système qui est quasiment incompressible. Ça, c'est un liquide. Et puis, à une même température, pour le même système, eh bien, j'ai ici une partie beaucoup plus molle, si je puis dire, où là, eh bien, il suffit d'un petit changement de pression pour changer beaucoup le volume. Donc ça, c'est un aspect gaz. Alors, je suis sûr que vous avez tous, dans vos cours de thermodynamique, étudié et compris comment est-ce qu'on peut utiliser ces courbes non monotones pour étudier vraiment le palier de la transition liquide-vapeur. Hein, je vous rappelle qu'on fait une petite construction, je vais peut-être le faire en bleu, une conduction de Maxwell, où on trace une ligne comme ça, on se débrouille pour que l'air ici soit à peu près égal à l'air là, et ça représente le palier transition liquide-gaz. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces considérations ici. Le point que je voudrais signaler, c'est que cette distinction entre liquide et gaz, qu'on comprend sur l'équation de van der Waals, n'est valable qu'en dessous d'une certaine température. Quand vous montez la température, eh bien, vous arrivez dans le régime où vous avez cette courbe-ci, puis après les courbes rouges. Et en particulier, donc, on a un point critique qui apparaît dans ces transitions, c'est-à-dire qu'on a, pour la courbe qui est représentée ici en brun, vous avez ici un point d'inflexion dans l'isotherme. C'est un point qui est donc où la dérivée première de la pression par rapport au volume est nulle, la dérivée seconde est également nulle, c'est un point de compressibilité infinie qui est donc caractérisé par un triplet de nombres, pression critique, température critique et puis densité critique. Et le point qui m'intéresse ici, c'est que si on décide de mesurer les pressions en unité de pression critique, les températures en unité de température critique, les densités en unité de densité critique, eh bien, on obtient une courbe universelle. C'est-à-dire que la fonction grand F que j'ai écrite ici, une fonction à deux variables, est une fonction qui doit être la même pour tous les gaz. Voilà. Et donc, on voit comment, avec cette équation d'état qui fait donc ce lien microscopique-macroscopique, on arrive à la notion d'universalité, d'une seule fonction qui peut décrire un ensemble de fluides, en l'occurrence ici des fluides classiques. Alors, toujours dans le domaine de la physique classique, avant de passer à ce qui va nous intéresser dans le cours, je vous donne ici une très belle illustration de cette universalité. C'est cette loi des états correspondants classiques, donc. C'est une courbe que j'ai tirée d'un article de Guggenheim, qui est daté de 1945, où Guggenheim a tracé donc, en abscisse N sur NC, en ordonnée T sur TC, donc il s'est placé à des températures inférieures à la température critique, donc là où il y a à la fois le liquide et le gaz qui peuvent coexister. Et donc à chaque fois, il a tracé un point qui représente donc un gaz donné. Alors les gaz, il y en a plein, ça va du néon jusqu'au méthane en passant par l'oxygène ou par l'azote. Et en utilisant donc cette paramétrisation en termes de densité critique et de température critique ici, eh bien, vous voyez que la branche du gaz ici, donc une branche à faible densité, tous les points se mettent sur les mêmes courbes, ici, enfin, à quelques incertitudes près, bien sûr. Ici, une branche à forte densité qui est la branche du liquide, également une seule et même courbe pour tous ces gaz. Voilà, donc ça c'est l'universalité dont je parlais. Alors quand on va regarder un petit peu plus en détail, il faut faire attention. Hein, au voisinage du point critique, l'équation de van der Waals n'est pas la bonne équation pour rendre compte de ce qui se passe ici. Il faut prendre des modèles plus sophistiqués. Mais l'universalité pressentie via l'équation de van der Waals est bien présente pour ce système. Donc, le cours de cette année, eh bien, ça va essayer de faire le passage de ce qu'on connaît pour les gaz classiques au domaine des gaz quantiques, des gaz de très très basse température. Et quand je parle de très très basse température, je veux parler de gaz dont la température est entre le nano-Kelvin et le micro-Kelvin. Donc, ce sont des gaz pour lesquels les effets quantiques vont être prépondérants, au contraire de ce qui se passait pour van der Waals. C'est pour ça que j'ai représenté ici mes particules par des petits paquets d'ondes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de comprendre quelles vont être les échelles de longueur dans le problème. Et vous allez voir, il y en a quatre. La première, donc, c'est, si vous voulez, l'échelle de longueur associée à la densité du gaz, c'est la distance moyenne entre particules dans le gaz, donc c'est, la densité, c'est n puissance moins 1 tiers, et ces distances moyennes, elles sont typiquement, dans ce qu'on va étudier cette année, entre 0,1 et 1 micron. C'est-à-dire que si je convertis ça en densité en atomes par centimètre cube, ça fait entre 10 puissance 12 et 10 puissance 15 atomes par centimètre cube. Deuxième échelle de longueur caractéristique du problème, eh bien, c'est précisément ce qui est associé au caractère quantique du mouvement de mes particules, c'est la longueur d'onde thermique, donc, qui est définie par cette équation, hein, 2πh bar 2 sur mkbt puissance 1,5, c'est donc la longueur d'onde qui intervient dans ces petits paquets d'ondes-là. Et cette longueur d'onde thermique, elle est de l'ordre de la distance entre particules. Aujourd'hui, elle sera plutôt plus petite que la distance entre particules. On étudiera des gaz faiblement dégénérés. Dans les cours suivants, elle sera plutôt plus grande que la distance entre particules. On étudiera des gaz fortement dégénérés. Et disons qu'on joue dans le même domaine, de 0,1 à 1 micron, voire quelques microns. Et puis ensuite, ces atomes donc, vont interagir. Et donc, il s'agit de caractériser les interactions entre atomes. Et pour ça, eh bien, j'ai besoin du potentiel entre les atomes. Et là, je l'ai représenté, ce potentiel. C'est une allure, je dirais, assez standard. Hein. On reviendra là-dessus, mais j'en ai beaucoup parlé l'an dernier. Donc, c'est un potentiel qui, à longue portée, ici, se comporte comme une loi de puissance attractive. C'est un potentiel, donc, précisément, ce sont les interactions de van der Waals que je mentionnais il y a un instant. Ce sont donc un potentiel en moins C6 sur R6. C6 est un coefficient de dispersion qui est propre à chaque espèce atomique. Et puis, quand on se rapproche beaucoup, donc quand les distances entre les deux membres, les deux partenaires de la collision ici, puisque c'est un potentiel diatomique, entre les deux partenaires devient de l'ordre de quelques angströms, il y a un minimum. Et puis ensuite, quand les nuages des deux atomes commencent à se pénétrer, là, il y a de la répulsion qui intervient. Et ce qu'on avait vu l'an dernier, c'est qu'on peut, grâce à la physique quantique, associer une portée à ce potentiel. Cette portée, c'est ce qu'on appelle le rayon de van der Waals, et on peut le construire simplement par analyse dimensionnelle, en essayant de combiner la masse des atomes, le coefficient C6 qui intervient ici, puis H-bar. On peut aussi essayer de faire un tout petit peu de physique, on peut se dire, quelle est la taille d'un paquet d'ondes, quelle est la taille que je dois donner à un paquet d'ondes si je veux que l'énergie cinétique liée au confinement, H-bar 2 sur ML2, soit du même ordre que l'énergie de van der Waals, C6 sur L6. Et comme ça, eh bien, on construit naturellement une taille de paquet d'ondes qui est exactement ce que j'ai écrit ici, à un facteur 2 près, qui est toujours arbitraire quand on définit une échelle de longueur. Donc, ce rayon de van der Waals, là, c'est ce qui va nous servir à caractériser la portée du potentiel. Encore une fois, c'est une notion qui est vraiment une notion quantique. Hein. Il y a H-bar qui intervient dedans. Ça n'aurait pas de sens en physique classique de parler de la portée d'un potentiel en 1 sur R6, mais c'est un sens qui est bien précis en physique quantique, au sens des paquets d'ondes que je donnais à l'instant. Et cette portée du potentiel, elle est beaucoup plus grande que la valeur du minimum ici. La valeur du minimum, comme je le disais, c'est quelques angströms. La portée d'un potentiel de van der Waals, quand vous mettez les coefficients C6 qu'on trouve pour les espèces atomiques courantes au laboratoire, c'est de quelques nanomètres, typiquement. Donc c'est quelque chose d'assez grand. Et puis, la dernière échelle de longueur dont je voudrais parler ici, c'est la longueur de diffusion. C'est donc, prenant ce potentiel-là, prenons en compte le fait que les atomes sont extrêmement froids, hein, ils bougent à des vitesses très basses, parce que la température est elle-même très basse, eh bien, les collisions se font essentiellement dans l'onde S. Pour décrire une collision dans l'onde S, eh bien, on introduit un paramètre qui est une longueur, qui est la longueur de diffusion. La longueur de diffusion a, en règle générale, un ordre de grandeur qui est de l'ordre de la portée du potentiel, du rayon de van der Waals, mais elle peut être beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite si on tire parti de résonance de diffusion. Donc, c'est un paramètre à part entière qu'il s'agit de classer par rapport aux autres. Et donc, si je veux commencer à classer ces paramètres, eh bien, on parlera dans ce cours de gaz dilué, toujours, ce qui veut dire que la portée petit b est toujours petite devant la distance moyenne entre particules. Si la portée devient de l'ordre de la distance entre particules, ce n'est plus un gaz, ce qu'on a, c'est vraiment un liquide. C'est ce qui se passe dans l'hélium liquide, par exemple, mais là, nous, on traitera d'un gaz, donc portée petite devant la distance entre particules. En revanche, je ne ferai pas d'hypothèse sur le rapport A sur D, c'est-à-dire que je pourrais considérer des rapports A sur D qui sont petits devant 1. A sur D, c'est rien d'autre que n à cube à la puissance 1 tiers, hein, si je me souviens que D, c'est n puissance moins 1 tiers. Donc, je pourrais considérer des gaz qui sont en interaction faible, c'est-à-dire Na cube petit devant 1, et au contraire des gaz en interaction forte, Na cube grand devant 1. Et par ailleurs, donc, je vais considérer des gaz qui sont froids, et dire que le gaz est froid, ben, c'est dire qu'il est au nano-kelvin ou au micro-kelvin, mais ça, c'est pas très... Il faut comparer des échelles, il faut comparer une autre échelle, donc c'est dire qu'un gaz est froid, c'est dire qu'en fait, la portée petit b est petite devant la longueur d'onde thermique des particules. Et c'est ça, en fait, qui me permet de dire que mes collisions sont dans l'onde S, c'est-à-dire que c'est parce que, parce que petit b est petit devant lambda que la barrière qui apparaît quand on traite les collisions, la barrière centrifuge qui apparaît quand on traite des collisions qui ne sont pas dans l'onde S, des collisions avec un certain moment cinétique relatif non nul entre les particules, eh bien, cette barrière est grande et donc les collisions en dehors de l'onde S sont quasiment ineffectives. Voilà. Mais encore une fois, je ne fais pas de rapport, d'hypothèse sur le rapport A sur lambda. Bien. Alors, le plan du cours de cette année, c'est le suivant. Donc, il y aura essentiellement trois parties. Il y aura plus que trois séances, hein, mais il y aura trois parties. La première, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. C'est le gaz faiblement dégénéré. Donc, lambda plus petit que d, ou si vous préférez, n lambda cube plus petit que 1. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle un développement du Verriel, ou si on veut avoir la terminologie la plus correcte possible, un développement en amas. Ensuite, on passera plusieurs séances à s'intéresser au régime dégénéré, donc n lambda cube plus grand que 1, donc au contraire de la situation d'aujourd'hui, mais l'interaction faible, c'est-à-dire na cube petit devant 1. Et là, on s'intéressera à des gaz de Bose, donc on verra comment on peut approcher ça par l'approche de Bogoliubov quantique. Ensuite, on verra les corrections à cette approche de Bogoliubov, correction appelée correction Li-Wang-Yang. Et puis, on finira avec des états qui sont très étudiés en ce moment, qui sont des états gouttelettes, où on met à profit justement cette énergie de Li-Wang-Yang pour stabiliser des états qui, sinon, seraient instables au niveau du champ moyen. Et puis, dans la dernière partie du cours, eh bien, on passera au régime d'interaction arbitrairement élevé, c'est-à-dire on relâchera la contrainte Na cube petit devant 1, on prendra Na cube qui pourra dépasser 1, et là, eh bien, on étudiera les prémices, je dirais, de ce qu'on appelle la théorie du contact, une théorie qui a été initiée par Chaitanya, donc les gens parlent souvent du contact de Tan. Voilà. Alors, ce cours, donc, c'est le deuxième d'une série que je consacre aux interactions. Donc, il y a un lien entre le cours qu'on va faire cette année et puis le cours de l'an passé. Rassurez-vous, hein, ce n'est pas la peine d'avoir suivi le cours de l'an passé pour suivre le cours de cette année. Je rappellerai tous les ingrédients nécessaires au fur et à mesure. Je vous dis juste ce qu'on a vu dans le cours de l'an dernier, au cas où vous voudriez aller y jeter un coup d'œil. Donc, l'an dernier, on a fait une description détaillée de l'interaction à deux corps, donc l'interaction entre deux particules avec un potentiel comme celui qui est représenté ici. On s'est intéressé à la fois aux états de diffusion, c'est-à-dire les états d'énergie positive, l'état où les particules sont asymptotiquement libres, se rapprochent, collisionnent, puis repartent à l'infini, et puis les états liés, qui sont les états représentés par ces états d'énergie négative, ici, ces lignes bleues, en prenant le cas qui nous intéresse du potentiel de Van der Waals, au moins à longue distance, ici. Et puis, on a mis en place certains outils qui vont nous resservir cette année, mais que je rappellerai au fur et à mesure. Ça peut être le développement de bornes, c'est-à-dire c'est un développement, par exemple, de la section efficace de collision en puissance du potentiel. Ce n'est pas forcément valable pour le potentiel que j'ai représenté ici, mais c'est un outil bien commode pour des potentiels modèles. On a vu ce développement en ondes partielles, et on a expliqué pourquoi, à basse énergie, c'était essentiellement l'onde S de moment cinétique nul qui contribuait. Et c'est comme ça qu'on a introduit la longueur de diffusion. On a également introduit le pseudo-potentiel, qui est une version un petit peu plus sophistiquée d'une discussion de Dirac pour décrire l'interaction entre deux atomes. La discussion de Dirac n'est pas utilisable en tant que telle à trois dimensions, mais on a vu comment la régulariser pour l'utiliser. Donc c'est ce qu'on appelle le pseudo-potentiel, qui jouera un rôle important dans les cours qui suivront. Et puis on a étudié les résonances de diffusion, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, comment décrire ce qui se passe quand la longueur de diffusion petit a peut devenir infinie, plus infinie ou moins infinie. On a connecté ça, au moins pour un potentiel simple comme ça, au fait que c'était lié à l'apparition ici d'un nouvel étalier. C'est-à-dire, si je suppose que le coefficient C6 ici, qui décrit ma loi en R6, si je varie légèrement le coefficient C6, eh bien, si je l'augmente ou je le diminue, l'étalier qui est représenté ici peut apparaître ou disparaître. Et ce qu'on a montré, c'est qu'à chaque fois que C6 est ajusté à une valeur telle que l'étalier est juste au ras de la limite de succession, juste à une énergie nulle, eh bien, la longueur de diffusion divergeait. Et puis ensuite, eh bien, elle reprenait une valeur fini, et puis elle redivergeait au nouvel étalier, etc. Voilà, donc on a relié ça, et ça, ça va jouer un rôle dès aujourd'hui. Voilà, donc j'en viens maintenant au cours d'aujourd'hui, qui est donc c'est le cas de gaz quantique faiblement dégénéré et cette approche qu'on peut appeler développement du viriel. Alors, développement du viriel, comme j'ai dit, la terminologie correcte, c'est développement en amas. Je vais dire dans un instant la différence entre développement du viriel et développement en amas, mais je dirais dans la plupart des ouvrages ou des articles, on parle de développement du viriel, donc j'ai adopté la terminologie la plus standard. Donc on se place, comme je l'ai dit, dans le régime faiblement dégénéré, n lambda cube petit devant 1, où lambda est rappelé ici. Le gaz est caractérisé par sa température T, par son potentiel chimique mu, et puis il occupe un certain volume de l'espace. Et l'idée du développement, c'est de chercher donc à exprimer des grandeurs thermodynamiques, la pression par exemple, en fonction d'un petit paramètre sans dimension. Et là, on va prendre la fugacité Z. Cette fugacité est définie de la manière suivante. On prend le rapport mu et kT, donc mu, c'est la dimension d'énergie, kBT également. Donc on prend le rapport mu sur kT, on prend l'exponentielle de ça. Donc Z, cette fugacité, est un nombre sans dimension. Et on va chercher un développement en puissance de Z pour cette pression. Alors, c'est toujours commode de travailler avec des nombres sans dimension. Donc on utilise une unité naturelle pour la pression. La pression, je vous rappelle ce que c'est comme dimension, hein, c'est une énergie divisée par un volume. Donc une énergie naturelle pour le problème, c'est kBT. Un volume naturel pour ce système, c'est lambda cube, lambda étant la longueur d'onde thermique. Donc je vais mesurer ma pression en unité de kBT sur lambda cube. Et le développement s'écrit donc sous la forme B1 de T fois Z, ordre 1 en Z, puis B2 de T Z2, puis B3 de T Z3. Et ce qui est absolument remarquable, ce qu'on va voir ensemble, c'est que pour avoir les coefficients B1, B2, B3, eh bien, il suffit, il faut le dire vite, hein, mais néanmoins, c'est quand même remarquable, il suffit de résoudre le problème au nombre de particules qui correspond à l'indice qui est là. Donc, pour avoir B1 de T, il suffit de résoudre le problème d'une particule dans la boîte de volume L cube que je vais considérer. Pour avoir B2 de T, il suffit de résoudre le problème à deux corps, on va le faire ensemble, de deux particules dans une boîte. B3 de T, il suffit de résoudre le problème à trois particules. Donc, c'est un exemple caractéristique du lien que je mentionnais tout au début entre thermodynamique, c'est-à-dire des quantités comme la pression, qui caractérise un gaz avec beaucoup, beaucoup de particules, et puis le problème à petit nombre de corps, le problème microscopique, les problèmes à un corps, problème à deux corps, problème à trois corps. Alors, j'ai dit que il y avait normalement ce développement en amas et puis il existe un développement du viriel. Alors le développement du viriel, c'est un développement similaire mais qui n'est pas en puissance de Z mais qui est en puissance de la densité. Alors pour avoir un nombre sans dimension, on prend la densité fois lambda cube, donc n lambda cube est un nombre sans dimension, c'est ce qui caractérise la dégénérescence du gaz. Et à l'ordre 1, en fait, Z, on va voir que Z est égal à lambda cube, les corrections sont d'ordre 2 et plus. Donc en fait, quand on fait le vrai développement du viriel en puissance de densité, ou quand on fait le développement en amas en puissance de Z, puis en fait, ces deux développements, en ordre donné, peuvent se connecter. Donc, il n'y en a pas un qui est plus riche que l'autre. Et donc, moi, je vais prendre ce développement du viriel. Voilà. Bien. Donc, ça, c'est le but du cours. Et donc, maintenant, je voudrais peut-être rappeler au tableau quelques petites choses sur la thermodynamique avant de se lancer dans cette étude du développement du viriel. Donc, en thermodynamique, donc ce qu'on étudie, c'est donc des fonctions thermodynamiques. Et donc la première fonction qu'on étudie, c'est toujours l'énergie, grand E. Et l'énergie, je vous rappelle, on la paramètre en fonction de trois variables, qui est l'entropie, S, donc le volume du gaz, que je vais appeler L cube, et puis donc le dernier, c'est le nombre de particules, grand N. J'appelle le volume du gaz L cube et pas V, parce que V, c'est le potentiel interatomique. Alors, si j'ai des V qui veulent dire une chose et pas l'autre, ça risque de faire des confusions. Donc, le volume, j'appellerai L cube. Voilà. Donc, une fois qu'on a l'énergie comme ça, je vous rappelle que, je vais peut-être écrire en blanc plutôt, c'est plus visible, on a une différentielle DE hein, qui est associée aux trois variables S, L cube et V. Et donc, la quantité conjuguée à S, c'est T, donc T dS. L cube, c'est la pression, donc moins P dL cube. Et puis la quantité conjuguée à N, c'est mu, donc plus mu dN. Je vous rappelle comment est-ce qu'on utilise ces quantités. Par exemple, si je m'intéresse à la pression ici, donc la pression moins P, c'est simplement la dérivée de l'énergie par rapport au volume, en gardant constant les autres variables, qui sont donc S et puis N. Alors on peut ne pas aimer trop travailler avec ces variables S et puis N, on peut préférer travailler avec la température plutôt qu'avec avec l'entropie, donc pour ça, on fait des transformations de Legendre, hein. Donc on peut introduire par exemple l'énergie libre, qui est donc L est une fonction de T, L cubé N, qui est simplement l'énergie E moins TS, et puis on peut aller un cran plus loin et introduire ce qu'on appelle le grand potentiel oméga, où cette fois-ci on se débarrasse de N pour le remplacer par le potentiel chimique, mu, qui est donc E moins TS moins mu N. Et quand on fait ça, donc on a une différentielle totale pour dωoméga, qui va donc être un moins, le TDS est devenu moins SDT, parce que j'ai soustrait moins TS, moins SDT, j'ai toujours le moins PDL cube, et puis j'ai un moins N dmu. Ce qui veut dire que cette relation-là, moins P, donc c'est, je peux l'écrire également, moins dωoméga, dérivé par toujours LQ, mais maintenant les variables que je maintiens constants sont les variables qui ne sont plus S et N, mais qui sont les variables T et mu. Alors pourquoi c'est intéressant de travailler avec le grand potentiel ? Eh bien parce que dans le grand potentiel, finalement, les variables, vous savez, les variables thermodynamiques peuvent être intensives ou extensives, c'est-à-dire qu'elles peuvent varier ou non quand je varie la température pour ces chimiques. Donc là, ici, j'ai finalement T et mu qui sont des variables intensives. Et je n'ai qu'une variable extensive, qui est L cube. Et si je considère un système dans lequel les interactions sont à relativement courte portée, il ne faut pas que j'ai des interactions coulombiennes ou des interactions gravitationnelles, mais si je prends un système où les interactions sont relativement courte portée, eh bien, je m'attends à ce que oméga de T, un volume multiplié par lambda, et puis le même potentiel chimique, je m'attends à ce que le grand potentiel pour ce système, donc lambda fois plus grand, soit simplement égal à lambda fois le oméga T L cube mu. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que oméga, je m'attends à ce qu'il soit proportionnel au volume. Proportionnel au volume. À T mu constant. Et comme par ailleurs P, la pression, c'est juste la dérivée d'oméga par L cube, si j'ai une proportionnalité, eh bien je sais qu'à ce moment-là, j'ai moins P fois V qui doit être égal à oméga. Donc on a une relation très simple entre pression, volume et puis oméga, ce qu'on n'aurait pas pour les autres potentiels thermodynamiques. Donc c'est commode de travailler avec grand oméga. Voilà, donc ça c'est la partie macroscopique. Et puis donc on établit en physique statistique un lien entre ce grand potentiel, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce grand potentiel et puis les fonctions de partition. Donc le lien avec la physique statistique, hein, est le suivant. Donc je l'écris. Lien avec la physique statistique. Donc grand oméga, en physique statique, on montre que c'est égal à moins kbt, le log de la fonction de partition grand canonique, gc. Gc, c'est grand canonique. Et zgc se calcule comme somme. Donc c'est un somme sur les systèmes avec un nombre de particules grand N qui va de 0 à l'infini, de, alors je vérifie que je prends bien les bonnes notations, oui, Zn, ou petite z, c'est la fugacité que j'ai déjà introduite, z puissance n, pardon, z indice n, je vais noter comme ça. Petit z, donc c'est la fugacité que j'ai déjà introduite, hein, c'est ce exponentiel de mu sur kbt. Et Zn, c'est donc la fonction de partition pour un système à n particules. Donc là encore, je vérifie que je vais prendre les bonnes notations. Oui. Donc c'est une somme sur tous les états à n corps. De exponentielle de moins EJ, que je note N, ici, sur KBT. Voilà, donc si vous savez calculer cette chose-là, si vous savez calculer tous les ZN, vous savez, connaissez le Z grand canonique, et ensuite, vous avez toutes vos fonctions thermodynamiques. Alors, comment est-ce qu'on calcule ces fonctions de partition? Donc, par convention, on prend Z à 0 particule égale 1, c'est-à-dire que le premier terme dans le développement ici, c'est 1, plus Z fois le Z à une particule. Donc c'est le Z à une particule que je réfère au tableau pour qu'on l'ait ensuite sous les yeux pendant tout le cours, parce qu'il va revenir fréquemment. Donc comment est-ce qu'on calcule Z1? Donc Z1, c'est donc la somme, la fonction de partition en sommant sur l'état à 1 corps. Donc j'ai une particule dans une boîte de volume L cube. Je vais supposer là que j'ai des conditions limites périodiques. Vous verrez que ça fluctue. De temps en temps, je prends des conditions limites périodiques, d'autres fois non. Mais là, je vais prendre des conditions limites périodiques. Donc, la particule est repérée par son vecteur d'onde K, qui est 2π sur L fois N, où N, c'est donc un triplet d'entiers NX, NY, NZ, qui sont des entiers relatifs, hein, qui peuvent être positifs ou négatifs. La particule peut aller vers la gauche ou vers la droite. Et donc, le Z1, c'est simplement la somme sur tous les n, si vous voulez, de exponentielle moins h bar 2 kn, enfin k, k carré sur 2m kbt. Et pour calculer ça, eh bien la technique habituelle, c'est de transformer la somme en une intégrale, en faisant tendre l vers l'infini, donc les distances entre les différents k tend vers 0, donc je peux passer à une intégrale. Le passage intégral me fait introduire un L cube sur 2π au cube. J'ai une intégrale sur D3K. Et puis de ce exponentiel moins H bar 2 K2 sur 2M KBT. Et c'est là que c'est intéressant d'introduire la longueur d'onde de De Broglie. Donc je vous rappelle sa définition. Un lambda 2, c'est 2π H bar 2 sur M KBT. C'est ce que j'ai écrit plusieurs fois sur les diapos. Donc, ce que je reconnais ici, alors je vais essayer de ne pas me tromper, je veux un 2π en haut, donc il faut que je multiplie par 2π en haut et en bas, donc ça, c'est exponentiel moins lambda 2 k2 sur 4π. Et donc là, j'ai une intégrale gaussienne à faire ensuite qui va me donner donc L cube sur 2π cube. Et l'intégrale gaussienne, donc ça me donne racine de pi sur a, donc 4π2, puissance, donc c'est racine, mais j'en ai 3, donc puissance 3,5. Et puis j'ai 1 sur lambda cube qui sort. Donc le 4π2 s'élimine avec ce 2π cube ici. 4π2 puissance 3,5 s'élimine avec le 2π cube qui est là. C'est la raison d'être, finalement, des quotients 2π qui interviennent ici. On se demande toujours pourquoi on les met, mais c'est juste pour que cette fonction-là soit simple. Et donc, je trouve que Z1 est simplement égal à L cube sur lambda cube. Voilà. Donc, le problème à un corps, il est réglé, on n'en parle plus, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne sais pas si j'ai autre chose à mettre au tableau pour l'instant. Oui, donc, je peux mettre ce qui va nous intéresser. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de trouver la pression, donc, en unité de, donc, comme je disais, kbt sur lambda cube, donc je vais mettre le lambda cube au numérateur. Donc cette pression, comme je disais, ça doit être un b1 de t fois z, plus b2 de t fois z2, plus etc. Et donc ce qu'on veut déterminer, c'est les différents coefficients b1, b2, etc. Et comme on va le voir dans un instant, bah, déjà le b1, maintenant on l'a grâce à ce qu'on vient de faire ici. Alors, voilà, cela étant posé, je reviens sur les diapos. Donc voilà le plan de ce qu'on va faire ensemble. Je laisse allumer encore un instant si vous voulez finir de prendre des notes. On va voir donc le principe de ce développement du viriel. On va commencer par le gaz parfait de Boltzmann, le rôle des statistiques quantiques, puis ensuite le principe général. On va passer un petit peu de temps sur le coefficient B2. on va le calculer pour les interactions d'onde S, et on va s'intéresser en particulier au cas d'une résonance de diffusion. Et puis ensuite, eh bien, on ira voir un système pour lequel les coefficients B3, B4, etc., peuvent être calculés et mesurés précisément. On s'arrête à B4, en fait, il ne faut pas que je mette etc. si je veux dire mesurer précisément, B4, qui est le gaz de Fermi dans le régime unitaire. Voilà, donc c'est ça le programme pour aujourd'hui. Toujours avec le développement qui est rappelé en haut, ici. Voilà, donc je vais peut-être revenir à une lumière plus tamisée. Voilà. Donc commençons par le gaz parfait classique, c'est-à-dire la statistique de Boltzmann. Donc on a besoin pour calculer le grand potentiel de Zn, fonction de partition à n particules. La statistique de Boltzmann, c'est la plus simple possible, ça consiste à dire qu'on a des particules qui sont indépendantes et qu'on compte comme on a l'habitude de compter des particules. Donc Zn, c'est simplement Z1 à la puissance n. Le seul compromis par rapport à la physique quantique, si je puis dire, c'est le préfacteur, le 1 sur factorial n, qui est là pour résoudre le paradoxe de Nernst, paradoxe qu'on trouve quand on mélange deux gaz qui sont en fait identiques. Eh bien, on ne doit pas changer l'entropie, et donc le 1 sur factorial n est là pour ça. Donc la fonction de partition grand canonique, telle que je l'ai définie au tableau, c'est donc simplement la somme des Zn, Z puissance n. Donc je reconnais un développement en série d'une exponentielle, puisque j'ai petit z, la fugacité fois z1, à la puissance n divisé par n factoriel. Donc la fonction de partition grand canonique est très simple, c'est simplement l'exponentielle de petit z fois z1. z1, c'est ce que j'ai calculé là-bas, hein, c'est le l cube sur lambda cube. Donc le grand potentiel, eh bien, c'est le log de cette fonction grand canonique, fonction de partition grand canonique. Le log d'une exponentielle, eh bien, c'est l'argument lui-même. Donc grand oméga, simplement moins kt, petit z, z1, avec z1 égale l cube sur lambda cube. Voilà, le tour est joué, on a tout ce qu'on veut. On en déduit les fonctions thermodynamiques qu'on souhaite, donc la pression, par exemple. On a vu que ça, c'était simplement le grand potentiel divisé par le volume, au signe près. Donc, vous prenez ce grand potentiel qui est écrit ici, vous divisez par le volume, et vous trouvez que la pression dans les unités kbt sur lambda cube que je veux, c'est petit z, simplement. Et la densité spatiale, qui est la dérivée de la pression par rapport au potentiel chimique, ça sort, alors si je rallume, ça sort de ça, par exemple. Le nombre de particules grand N, c'est la dérivée de oméga par rapport à mu. Et donc, si je veux la densité, il faut que je divise ça par le volume. Et donc, comme l'oméga est proportionnel au volume, la densité spatiale, c'est bien la dérivée de la pression par rapport à mu. C'est tout un petit jeu auquel vous êtes peut-être habitué sur les fonctions thermodynamiques. Et donc, j'en déduis que N lambda cube est égal à Z lui aussi. Ça, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, hein, c'est que pour un gaz faiblement dégénéré, à l'ordre 1, on trouve que la densité dans l'espace des phases, c'est simplement la fugacité. Et donc là, bah, vous retrouvez, si vous en aviez un doute, la loi du gaz parfait, P égale petit n kbt. Et puis, on a donc gratuitement le développement du viriel pour ce système, puisque je vous rappelle que le développement du viriel, c'est un développement de la pression dans ces unités qui sont écrites ici en fonction de petit z. Et là, ben, le développement il se réduit à sa plus simple expression. J'ai un terme dans mon développement, et c'est le terme linéaire z. Donc j'en déduis que le coefficient b1 est égal à 1, et j'en déduis que tous les coefficients bj pour j supérieur à 2 sont nuls. Voilà. Donc le développement du viriel, ou le développement en amas pour un gaz parfait classique, il est très simple. Les gaz parfaits quantiques. Donc là encore, je ne vais pas refaire un cours là-dessus. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont eu à l'université. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend ? Il faut prendre en compte dans le calcul du grand potentiel l'indiscernabilité entre particules, le fait qu'il faut compter les particules en prenant en compte le fait que ben, on ne peut pas mettre deux fermions dans la même boîte et que deux bosons dans la même boîte, c'est un seul état. Bon, je ne reviens pas là-dessus. On remplace, quand on fait ça, quand on le fait correctement, on remplace le grand oméga qui est écrit ici, qui est celui que j'ai écrit au tableau tout à l'heure, la somme sur les fonctions de partition simples, à cette expression-ci, qui est un petit peu plus compliquée pour les bosons polarisés ou pour les fermions polarisés, avec un log de 1 moins z exponentielle moins ej pour les bosons et un log de 1 plus z exponentielle moins ej pour les fermions. Ensuite, ce n'est pas très, très compliqué de continuer. Ce que je veux, c'est un développement en puissance de z, et là, z est un logarithme. Donc, pour progresser, je développe le logarithme de 1 moins x en série entière, j'utilise ce développement-là, et j'obtiens comme ça, simplement, ce que devient le développement du viriel, partant du gaz de Boltzmann ici, au gaz de Bose ici, ou au gaz de Fermi ici. Alors, pour le gaz de Bose, on voit apparaître une somme infinie de termes maintenant, qui sont tous positifs, et qui sont donc des Zj sur j puissance 5 demi. Donc chaque coefficient Bj de t, c'est 1 sur j puissance 5 demi. Pour j égale 1, on retrouve que 1 de t égale 1, mais pour les j plus élevés, à 2 particules, à 3 particules, c'est des j puissance 5 demi. Et pour des fermions, on a des signes qui alternent, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, comme ça. Donc B1 de t vaut toujours 1, mais B2 va être négatif, B3 sera positif, etc. Voilà, donc les gaz parfaits quantiques, je ne fais pas la démonstration, hein, encore une fois, c'est dans tous les livres, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, donc ce n'est pas là-dessus que je veux me focaliser dans le cours, mais c'est quelque chose de bien maîtrisé. Maintenant, comment est-ce qu'on va procéder donc, quand il y aura des interactions, quand on quitte le domaine du gaz parfait? Donc, on cherche ce développement, P lambda cube sur KBT, en puissance de Z, ici. Donc, c'est vraiment, je l'écris à gauche, ici. Et par ailleurs, donc, on a vu que grand oméga, notre grand potentiel, c'est le log de la fonction de partition grand canonique qui s'écrit 1 plus petit z plus z1 plus z2, z2, etc. Et je sais par ailleurs, c'est ce qu'on a vu ensemble, que la pression, c'est simplement grand oméga divisé par le volume. Donc ce qu'il s'agit simplement, c'est d'identifier terme à terme le développement que je souhaite qui est à gauche, et puis le développement dont je dispose quand je fais le lien entre les fonctions de partition et puis les potentiels thermodynamiques à droite, ici. Donc ça, faut relever ses manches, faut développer ce log encore, et puis on identifie terme à terme les puissances de Z. Donc le terme d'ordre 1, le B1 de T qui est ici, c'est le terme linéaire en Z qui va apparaître là, qui sera simplement B1 de T égale 1. C'est ce qu'on a déjà trouvé pour le gaz parfait et pour les gaz parfaits en général, quantiques ou classiques. B2 de T, quand vous faites l'identification terme à terme, vous trouvez que B2 de T fait intervenir. Il faut que je cherche les termes en Z2 ici. Donc, je vais avoir ce Z2-là, et puis je vais avoir le ZZ1 au carré qui va apparaître quand je vais le développer. Donc, B2 de T, quand vous faites le calcul, vous trouvez que c'est Z2 moins Z1 carré sur 2. B3 de T, ce sera Z3 moins Z1, Z2 plus Z1 cube sur 3, etc. Et on trouve comme ça, immédiatement, ce que j'annonçais au début, c'est-à-dire ce lien microscopique-macroscopique. Pour avoir le coefficient B2, eh bien, la seule chose dont j'ai besoin, c'est la fonction de partition à deux corps Z2. Je n'ai pas besoin de résoudre de problème à n corps pour trouver B2 de T. Et de la même façon, pour trouver B3 de T, j'ai besoin de la fonction de partition Z3 et puis les fonctions de partition Z1 et Z2 que je connais déjà, si j'ai résolu le problème de B2. Donc j'ai besoin essentiellement de résoudre le problème à trois corps. Ce qui n'est pas simple, hein, mais néanmoins, c'est quand même un grand progrès par rapport à 10 puissance 23 particules. Voilà. Donc, ça, c'est le principe du développement du viriel. Et donc, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de essayer de voir ce qu'on peut dire pour nos gaz quantiques en interaction sur Z2 d'une part, puis sur Z3 et éventuellement sur Z4. Voilà, donc ça c'était le cadre général de ce qu'on veut faire aujourd'hui. Alors maintenant, je vous propose de nous intéresser au deuxième coefficient du viriel, B2 de T. C'est le premier non trivial, si je puis dire, puisque B1 de T c'était 1, c'est une particule dans une boîte, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, pour ça, il faut que je prenne en compte les interactions entre particules. Et là, je vais me limiter au cas de deux particules identiques. Donc, ça peut être des bosons ou des fermions. Si je prends des fermions et qu'ils sont très froids, eh bien, je sais qu'ils ne vont pas interagir entre eux, puisque je vous ai dit qu'à très basse température, les interactions étaient essentiellement dans l'onde S, et deux fermions polarisés n'ont pas d'interaction dans l'onde S, parce que si je prends deux fermions polarisés, c'est-à-dire le même état de spin, leur fonction d'onde spatiale doit être antisymétrique, et donc ça ne convient pas pour l'onde S. Donc des fermions polarisés, eux, ne vont pas interagir, donc ça, leur sort est réglé. En revanche, je vais m'intéresser plutôt à deux bosons identiques qui, eux, peuvent interagir dans l'onde S. Et ce que je vais faire ici, en fait, c'est rien d'autre qu'un formalisme qui est bien connu en physique statistique. C'est un formalisme qui a été mis en place au début par Bethe et Uhlenbeck, peut-être pas dans le cas résonant, mais au moins dans le cas non résonant. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est le formalisme de Bethe-Uhlenbeck appliqué au cas donc, de gaz froid, de basse énergie. Donc, on doit calculer Z2, fonction de partition pour le problème à deux corps. Et la première chose à faire, quand on est face à un problème à deux corps, ça, vous l'avez sûrement tous vu, c'est vrai quand on fait de l'astronomie, tout comme quand on fait de la physique quantique, c'est de séparer la variable du centre de masse et puis la variable relative. Et ça se manifeste au niveau des fonctions de partition. par le fait suivant, c'est que Z2, je peux l'écrire comme le produit de la fonction de partition du centre de masse, donc une somme sur tous les états possibles pour le centre de masse, fois Z relatif, somme sur tous les états possibles du mouvement relatif. Le mouvement du centre de masse, ben lui, il est très simple. C'est simplement le mouvement d'une particule libre de masse 2m. Donc, je suis ramené à mon calcul de Z1 tout à l'heure. Simplement, je dois prendre en compte le fait que la masse n'est pas m, mais 2m. Et donc, si vous regardez comment est-ce que la masse intervenait dans mon Z1, alors là, c'est un peu sombre, mais Z1, je vous rappelle ce que c'est. Hein, c'est écrit ici, c'est L sur lambda cube. Ici, et lambda, je ne me souviens plus si j'ai écrit sa valeur. Oui, c'est ça, lambda est écrit ici. Donc, lambda est proportionnel à la racine de m. Donc, j'ai du m puissance 3,5 qui intervient là. Donc, quand je passe la masse de m à 2m, j'ai un 2 puissance 3,5 qui va apparaître. Donc, le Z1 que j'avais tout à l'heure doit être multiplié par 2 puissance 3,5 pour avoir le Z du centre de masse. C'est tout. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est le mouvement relatif. Donc, Z relatif, c'est une somme sur tous les états, état libre ou état lié, du potentiel d'interaction entre mes atomes, avec un mouvement qui se fait donc avec la masse réduite, cette fois-ci, qui vaut m sur 2. Donc voilà mon potentiel, et voilà les états qui m'intéressent. Donc les états liés, ce sont les petits traits bleus qui sont ici, et puis les états libres, les états de diffusion, c'est les états d'énergie positive qui sont là, où mes particules arrivent de l'infini, tapent l'une contre l'autre et repartent à l'infini. Et on va s'intéresser à deux cas limites intéressants, donc les cas que j'ai qualifiés de non-résonants ou de résonants. Donc le cas non-résonant, c'est une interaction en onde S où je ne suis pas au niveau où j'ai un étalier qui est sur le point d'apparaître. Donc la longueur de diffusion petit a, elle a comme ordre de grandeur la longueur de Van der Waals, le rayon de Van der Waals que j'avais introduit tout à l'heure. Donc il est petit, petit a est petit devant lambda. Et puis, je regarderai le cas opposé d'une interaction résonante où j'ai un étalier qui est sur le point d'apparaître ici, donc A de l'ordre infini, enfin de l'ordre infini très très grand devant les autres paramètres du problème, positif ou négatif. Alors, commençons par le cas non résonant, donc le cas petit a, très petit devant lambda, en valeur absolue. Donc, je dois sommer sur les étaliers et sur les états de diffusion. Commençons par nous intéresser aux étaliers. Les étaliers, si je suis loin de résonance, ont une énergie qui est négative, et cette énergie est, en valeur absolue, très grande devant kT, par définition, d'être loin de résonance. Je dis que A est petit devant lambda, ça revient à dire que l'énergie des étaliers, tous les étaliers, même le dernier étalier, a une énergie qui est grande devant kT. Alors cet étalier, est-ce qu'il joue un rôle dans une expérience d'atome froid? Eh bien la réponse est non, essentiellement, pour la raison suivante. Vous prenez vos atomes, vous les refroidissez par laser, par évaporation, et puis les atomes, de temps en temps, peuvent faire une collision. Alors, il faut une collision à trois corps. Et donc, quand vous avez une collision à trois corps, vous pouvez avoir deux des états qui forment effectivement un de ces étaliers, là, représenté par un trait bleu. Et puis, vous avez le troisième corps qui se débrouille pour assurer la conservation de l'énergie et de l'impulsion. Donc, vous avez une énergie colossale qui est libérée, puis c'est une énergie, par colossale, j'entends très grande devant KBT, puisque je pars d'un état d'énergie positive pour faire un état d'énergie négative. Et donc, cette énergie colossale, entre guillemets, elle est partagée entre le troisième corps et puis mon dimère, qui lui aussi encaisse une énergie cinétique très grande devant KT. Donc, ces dimères, ils ne vont pas rester piégés, ils vont s'en aller immédiatement, parce que les pièges qui confinent les particules ont eux-mêmes une profondeur de l'ordre de KT. Donc, les dimères, certes, ils peuvent être produits de manière transitoire, mais très rapidement, ils sont perdus pour la science et ils ne rentrent pas dans l'équilibre thermodynamique. Je n'ai pas un état d'équilibre thermodynamique entre les dimères et puis les monomères qui sont en train de collisionner ici. Ça veut dire que donc, je ne vais pas les prendre en compte dans ma fonction de partition. Et si je les prenais en compte, ben, ce que je trouverais, en fait, c'est que toute la population s'accumule dans le dimère du bas, là, parce que lui, il a une énergie négative très grande, donc le puissance moins EJ sur KT pour lui, c'est un nombre qui est très très grand devant tous les autres, en particulier ceux des états de diffusion. Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que quand on fait des expériences d'atomes froids, en fait, on trompe la nature. C'est-à-dire que l'état fondamental d'atomes de rubidium, de strontium, de votre espèce atomique favorite, l'état fondamental à température de microkelvin, ce n'est pas un gaz, c'est un solide avec une pression de vapeur saturante négligeable. Tout ce qu'on fait, nous, c'est qu'on trompe la nature en fabriquant un état métastable où le gaz reste à l'état vapeur, et puis quand par malheur une dimère se forme, aussitôt il est éjecté. Voilà. Mais sinon, si on devait prendre en compte tous les états, ce qu'on trouverait, c'est que tout le monde s'accumule ici. Donc, on oublie les états liés parce qu'ils n'interviennent pas dans l'état d'équilibre thermodynamique et on ne garde que l'état de diffusion. C'est eux qui vont contribuer à la fonction de partition. Donc, ces états, ils ont un nombre d'ondes K qui m'a décrit la collision, qui est de l'ordre de 1 sur lambda. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le H bar 2, K2 sur 2M est de l'ordre de KBT, ici. Hein, c'est des états dont l'énergie est de l'ordre de la température. Ce qui veut donc dire que KA est petit devant 1. Et dans ces cas-là, eh bien, l'état de diffusion, je peux l'écrire assez simplement, c'est-à-dire que l'état de diffusion psi de R, ou plus précisément la fonction de radiale réduite U de R, qui est R fois psi de R, eh bien, en très bonne approximation, je peux l'écrire sinus de K fois R moins A, où A est la longueur de diffusion. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans ce domaine-là, on peut dire que finalement toutes mes fonctions d'onde partagent un même nœud en R égale A. Et ça, c'est illustré sur ce diagramme-là, où là, j'ai mis la résolution, c'est un diagramme que j'avais déjà montré l'an dernier, où j'ai mis la résolution donc, du problème des états de diffusion dans un puits carré. Alors, je peux peut-être zoomer un peu. Est-ce que ça va marcher si je fais ça? Est-ce que ça zoome bien, ça? Oui. Voilà. Là, vous avez le puits carré en noir hein, sur ce diagramme. Et puis, j'ai choisi les paramètres du puits carré, profondeur et portée petit b, tel que j'ai une longueur de diffusion A qui est de l'ordre de 5 fois petit b, et vous voyez effectivement donc, toutes les fonctions d'onde correspondant à différents cas choisis ici, donc des cas plus ou moins grands correspondant à des énergies plus ou moins grandes, tous se croisaient quasiment au même endroit, et cet endroit, c'est précisément la longueur de diffusion petit a. Voilà, donc je reviens en mode présentation. J'espère que ça va marcher, voilà, très bien. Donc, le point, donc, c'est que j'ai toutes mes fonctions dont un nœud au même endroit, et la manière dont je vais prendre en compte l'interaction de particules, eh bien, c'est par le fait que finalement la présence de ce nœud imposé en R égale A, ça va venir modifier ma densité d'état. La densité d'état, c'était à trois dimensions le L cube sur 2 pi cube que j'avais introduit tout à l'heure quand j'étais passé d'une somme discrète à une intégrale. Là, pour le canal dans l'onde S, eh bien, ça va venir me modifier la densité d'état parce que mes particules, finalement, elles n'ont pas toute la boîte pour elles, mais elles doivent avoir un nœud, non pas en zéro, mais en R égale A, c'est ce que vous voyez ici. Donc, comment est-ce qu'on prend ça en compte? Eh bien, je dois donc calculer cette somme sur tous les états n de exponentielle moins h bar carré, kn carré, mkt. Mes fonctions d'onde radiale réduites sont dans sinus k fois r moins a. Et donc, là, je vais prendre des conditions limites strictes. C'est plus simple pour ce problème-là. Je vais supposer que ma particule relative est confinée dans une sphère, et je prends donc une sphère de rayon grand R. Et ce que je vais dire, pour prendre en compte donc, cette quantification dans ma sphère, c'est dire que donc, K fois R moins A doit s'annuler sur les parois de la sphère. Donc Kn, K fois R moins A, où je prends grand R, le rayon de la sphère, doit être un multiple entier de pi, c'est-à-dire que Kn doit être égal à n fois pi sur R moins A. R, on va tendre vers l'infini à la fin du calcul, bien sûr, mais c'est ça que je trouve. Et donc, quand je fais mon calcul de la fonction de partition pour le canal de l'onde S, donc c'est une intégrale à une dimension cette fois-ci, pour retrouver l'intégrale à trois dimensions là-bas, il faudrait que je somme sur tous les états de moment cinétique, les L qui vaudraient 0, 1, 2, 3 avec les M associés. Là, je me contente de L égale 0, M égale 0, donc c'est une intégrale à 1D. Et ce que j'avais tout à l'heure, qui était le L sur 2pi que je prenais au cube, eh bien, le L est remplacé par R moins A sur pi ici. Et puis, j'ai une somme de 0 à l'infini de ce exponentiel, moins H bar 2K2. C'est sur M et pas sur 2M parce que c'est la masse réduite qui intervient. Voilà, et c'est une intégrale gaussienne comme tout à l'heure, donc je ne refais pas le calcul. Je trouve R moins A sur racine de 2 lambda. Le R ici, je ne vais pas m'en préoccuper. Ce R-là, il serait là même en l'absence d'interaction. Là, j'ai traité mon problème d'une autre manière que ce que j'avais fait là-bas, mais le R-là, il est là pour me décrire le problème sans interaction. Ce qui m'intéresse ici, c'est le moins A qui vient ici, qui vient me modifier ma fonction de partition pour ma variable relative, qui est le terme dû aux interactions. Donc, la présence des interactions dans ce problème-là, c'est ce moins A qui vient ici, moins A sur racine de 2 lambda. Et donc, maintenant, je n'ai plus qu'à redébobiner tout. Mon Z2, je vous ai dit, c'est le produit Z centre de masse fois Z relatif. On a calculé Z centre de masse avec ce 2 puissance 3,5 fois Z1. on vient de calculer le z relatif qui est ici. Et donc le b2 de t, je vous ai dit que c'était z2 moins z1 carré sur 2, donc j'ai la valeur de b2 de t. Encore une fois, le r, je le réintègre dans la théorie du gaz parfait que j'ai vu jusqu'à maintenant, donc c'est ce qui va me donner pour mes bosons le 1 sur 2 puissance 5 demi. Et puis j'ai ce moins a sur lambda avec un racine de 2 et puis le 2 puissance 3 demi qui est au numérateur, qui me donne un moins 2a sur lambda au final. Voilà. Et donc j'ai le coefficient du viriel dans le cas loin de résonance. Encore une fois, c'est le résultat de Bethe-Uhlenbeck. Je n'ai rien trouvé de bien original ici, hein, mais c'est agréable de le faire d'une manière assez économique, je dirais. Alors, on peut faire un retour vers la thermodynamique. Comment est-ce que ces choses-là se connectent à la thermodynamique telle que je l'avais présentée au tableau? Donc, le grand potentiel du gaz, eh bien, à cet ordre-là, je vous rappelle que c'est le grand potentiel est proportionnel à la pression, donc ça va faire intervenir Z plus B2, Z2, avec donc ce B2 qui vaut pour des bosons le 1 sur 2 puissance 5 demi lié à l'indiscernabilité et le moins 2A sur lambda lié aux interactions. Pour des fermions, je n'ai pas d'interaction, j'ai simplement l'effet de statistique quantique moins 1 sur 2 puissance 5 demi. Une fois qu'on a grand oméga, on peut calculer toutes les autres fonctions de thermodynamique. Vous pouvez calculer l'entropie en prenant les dérivées partielles par rapport à la température. Vous pouvez ensuite calculer l'énergie. Alors là, j'ai mis le résultat sans démonstration, mais vous pouvez le prendre comme un exercice si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on obtient à la fin quand on remplace B2 par sa valeur, soit ici, soit là, soit dans l'expression de la pression? Donc ce terme lié aux statistiques quantiques, déjà, le 1 sur 2 puissance 5 demi ou moins 1 sur 2 puissance 5 demi. Si vous exprimez la pression en fonction des variables densité et puis température, ce que vous trouvez, c'est que la pression est augmentée pour les fermions à cause de ce moins 1 sur 2 puissance 5 demi. Et ça, c'est rien d'autre que l'effet de Pauli. C'est ce qu'on appelle la pression de Pauli, c'est le fait que quand vous mettez deux fermions, si vous essayez de les mettre au même endroit, eh bien, ils ne veulent pas. Donc finalement, le volume accessible pour les fermions est plus petit que ce qu'on penserait si on avait affaire à des particules obéissant à la cycle de Boltzmann. Et donc, vous avez une augmentation de la pression pour des fermions à n était fixé. Et de la même façon, vous aurez une diminution de la pression si vous prenez des bosons. Quant au terme d'interaction, donc le moins 2a sur lambda, qui est donc pour des particules polarisées présents seulement pour des bosons, eh bien, vous pouvez calculer l'énergie qui est là. Et cette énergie, vous pouvez vérifier qu'elle s'écrit sous la forme petit g fois la densité fois le nombre de particules. Donc c'est une énergie qui est extensive. Quand j'augmente le nombre de particules à densité fixée, eh bien, j'augmente l'énergie d'autant. Cette expression est intéressante. Petit g, c'est un coefficient qu'on va voir apparaître bien souvent, qui est typique des gaz quantiques. C'est 4 pi h bar 2 fois la longueur de diffusion petit a divisé par la masse. Et pour ceux d'entre vous qui sont habitués à la physique des condensats, eh bien, cette expression pour l'énergie interaction, c'est la même que celle d'un condensat pur, à un facteur de près. Pour un condensat pur, vous avez 1,5 de petit g fois n grand n, et là, vous avez 1. Et ça, eh bien, cette différence d'un facteur 2, ça peut rappeler des choses aux opticiens de la salle. C'est rien d'autre que le facteur Hanbury-Brown et Twiss. C'est le fait que quand vous avez un champ fluctuant gaussien, eh bien, les fluctuations de densité font que la valeur moyenne de la n carré, c'est deux fois le carré de la valeur moyenne. Et c'est rien d'autre que ça, ce facteur 2 que vous avez ici pour un gaz de Bose faiblement dégénéré par rapport à ce qui se passe pour un condensat pur qui, là, pour le coup, c'est fortement dégénéré et il n'y a pas de fluctuation de densité. Voilà ce que je voulais dire sur le cas non résonant. Maintenant, le cas résonant, comment est-ce qu'on le traite? Donc, le cas résonant, comme je l'ai dit, c'est ce produit quand vous êtes dans une situation où une très légère modification du potentiel d'interaction conduit à l'apparition d'un nouvel étalier. Plus précisément, le schéma canonique pour ça, c'est ce que j'ai représenté ici. Supposons que vous preniez un puits carré pour simplifier, mais ça pourrait aussi être un potentiel de Van der Waals. Je modifie la profondeur du puits carré V0, donc ce V0, là, c'est ça. Puis je travaille à portée petit b constante. Donc je modifie la profondeur B0, et quand je vais augmenter B0, eh bien, je peux passer une situation où j'ai deux états assez fortement liés à une situation où j'ai trois étaliers. Donc en ce point-ci, sur la ligne pointillée ici, j'ai ce troisième étalier que j'ai représenté en rouge qui apparaît. Et à ce moment-là, la longueur de diffusion diverge. Quand l'étalier n'est pas encore apparu, quand je suis ici, eh bien, je suis dans le cas où A va être grande et négative, A va tendre vers moins l'infini. Au contraire, quand l'étalier vient juste d'apparaître, ma longueur de diffusion va être grande et positive, je suis dans ce cas-là, et si je diminue V0 en partant de valeur positive, elle tend vers plus l'infini, au moment où l'étalier devient de moins en moins lié. Voilà. Et ce qui est intéressant, en plus, ce qu'on avait vu l'an dernier, c'est qu'il y a un lien entre l'énergie de cet étalier, là, l'état en rouge, et puis la longueur de diffusion petit a. Plus précisément, si je me mets à gauche ici, ben, l'étalier n'est pas encore apparu, donc il n'y a pas d'énergie d'étalier puisqu'il n'est pas là. Mais si je me mets à droite, donc j'ai une longueur de diffusion petit a qui est grande et positive, et on peut montrer que l'énergie d'étalier, elle, est négative, bien sûr, puisque c'est un étalier, et elle est à peu près égale à moins h bar 2 sur ma2. Donc j'ai un lien, ce lien fort entre le problème de la diffusion, le problème de particules libres, et puis le problème de particules liées avec cette énergie-là. Voilà. Cette loi-là n'est pas valable pour les états fortement liés, hein, c'est valable qu'au voisinage même de la résonance. Alors comment est-ce qu'on analyse la collision dans ces termes, dans ces conditions, et comment est-ce qu'on relie ça aux coefficients du viriel ? Donc là, il faut être un petit peu plus soigneux que ce qu'on a fait dans le cas non résonnant, c'est-à-dire que je ne peux pas me contenter de dire simplement que la fonction d'onde radiale réduite, c'est k fois r moins a, comme a tend vers l'infini, ça ferait des ordres. Ce qu'il faut vraiment introduire là, c'est le déphasage en onde S, delta 0 de k. Ce déphasage se déduit de la longueur de diffusion par la relation qui est écrite ici, tangente delta 0 de k égale moins ka. Donc quand a tend vers l'infini, ça veut dire que mon déphasage delta 0 ici vaut pi sur 2. Et après, ben, je peux recommencer le même petit jeu que tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux recaractériser l'effet des interactions comme une modification de la densité d'état accessible pour mes cas ici. Donc il faut que j'écrive, là encore, le fait que, en me plaçant dans une sphère de rayon grand R, l'argument de ce sinus-là doit être égal à 0 sur les parois de la sphère. Donc je prends Kn grand R plus delta 0 de Kn doit être égal à un entier positif fois pi. Et puis donc là, pour avoir ma densité d'état, il faut que je regarde la distance entre deux k quantifiés successifs, donc Kn plus 1 et Kn. Pour ça, il faut que je prenne la différentielle de delta 0 ici, donc Kn plus 1 moins Kn fois grand R plus d delta 0 sur dk doit être égal à pi. Et je réinjecte tout ça dans ma fonction de partition. Et je trouve quoi ? Eh bien, je trouve d'abord le terme qui est lié au grand R, qui est indépendant de l'interaction. Lui, j'en ai pas vraiment besoin. Enfin, encore une fois, je l'avais déjà quand j'ai fait ma théorie du gaz parfait. Ensuite, j'ai le terme qui vient du d delta 0 sur dk, qui est ici, potentiel moins h bar 2 k2 sur mkvt. Et puis, je dois garder cette fois-ci l'état faiblement lié, parce que l'état faiblement lié, lui, il a une énergie qui est vraiment très négative, mais très basse, et donc il va pouvoir se former au gré des collisions à trois corps, et puis se dissocier sans que le dimère ne s'échappe du gaz, parce que l'énergie qui est libérée quand il se forme, l'énergie que je vous ai dit, c'est h bar 2 sur ma2, cette énergie, cette fois-ci, elle est petite devant kvt. Donc, le dimère, s'il se forme, continuera vraisemblablement à être piégé, il pourra se redissocier lors d'une autre collision, donc le dimère faiblement lié, dans ce cas-là, est en équilibre thermodynamique avec les particules libres. Donc lui, il faut que je garde dans mon calcul. Voilà, donc là, j'ai mis entre crochets pour dire que je dois le prendre en compte seulement quand A est positif, donc quand A est négatif, il n'existe pas, mais quand A est positif, il existe. Voilà, et donc je dois calculer ça. Alors, les calculs sont faits dans les notes, hein, je ne vais pas les détailler, c'est une intégrale qui n'est pas très agréable à prendre, mais enfin, bon, on y arrive. Et quand on fait le calcul, donc, on trouve le résultat suivant, c'est que le résultat est le même pour B2 qu'on se place à gauche de la résonance ou à droite de la résonance. C'est-à-dire qu'à gauche de la résonance, je dois sommer seulement sur l'état libre, à droite de la résonance, je dois sommer à la fois sur l'état libre et puis sur l'étalier qui apparaît, mais de manière absolument remarquable, la sommation libre plus lié ici vient donner le même résultat que libre là seulement, et donc le quotient B2 est continu à la résonance, et sa valeur à résonance est racine de 2. Donc, on trouve qu'à résonance, le quotient B2 s'écrit 1 sur 2 puissance 5 demi lié aux statistiques quantiques pour mes bosons polarisés et racine de 2 pour les interactions. Ça, c'est à comparer au 1 sur 2 puissance 5 demi moins 2a sur lambda qu'on avait dans le cas non résonnant. Et là, on aboutit à un résultat qui, à première vue, est surprenant, mais en fait, est logique. C'est que le coefficient B2 lié aux interactions est un pur nombre. C'est racine de 2. Voilà. Ce n'est pas du tout quelque chose qui dépend des paramètres physiques du problème, comme dans le cas de nos raisonnants A et lambda. Mais quand on y réfléchit un petit peu, c'est assez normal. On sait qu'il est sans dimension, ça c'est sûr. Et si je voulais, par exemple, que la température intervienne, la température ne pourrait intervenir que sous forme de la longueur d'onde lambda, puisque lambda, c'est un moyen de paramétrer la température. Lambda, je vous rappelle, est en 1 sur racine de t. Mais si je veux que lambda intervienne, il faut que j'ai une autre longueur à proposer pour fabriquer un nombre sans dimension. Là, pas de souci, j'avais petit a à ma disposition, donc je faisais le rapport a sur lambda et j'avais mon coefficient B2 au facteur moins 2 près. En revanche, là, petit a tend vers plus l'infini ou moins l'infini, donc il disparaît du problème, et j'ai donc pas d'autre échelle de longueur à mettre en face de lambda. Et donc, le résultat des courses, c'est que la seule manière d'avoir un B2 non nul, c'est que ce soit un pur nombre, et ce pur nombre, ben, il se trouve que c'est racine de 2. Ça aurait pu être pi hein, ou n'importe quoi d'autre, mais bon, c'est racine de 2. Voilà. Bien, donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce deuxième quotient du Viriel. Alors, on pourrait continuer comme ça sur d'autres quotients du Viriel, et c'est ce qu'on va faire, mais on va le faire sur un cas bien particulier, le cas le plus simple, je dirais, qui est le cas du gaz de Fermi unitaire. Donc, on va quitter le régime de particules polarisées pour maintenant passer à un système de particules de spin 1,5 qu'on va prendre non polarisées, c'est-à-dire qu'on va avoir des particules de spin pointant vers le haut et de particules de spin pointant vers le bas, avec un code couleur que vous reconnaîtrez, rouge pour les unes et bleu pour les autres. Alors, je vous rappelle que quand deux fermions collisionnent avec le même état de spin, ils n'ont pas d'interaction en ondes S. Donc, collision rouge-rouge, pas de longueur de diffusion à prendre en compte, collision bleu-bleu, non plus. Collision rouge-bleu, en revanche, là, j'ai une certaine longueur de diffusion qui est associée, et pour simplifier, je vais me mettre dans le cas résonant. Et puis, c'est aussi le cas le plus intéressant, le plus riche expérimentalement. Donc, je vais me mettre dans le cas résonant, donc je vais supposer que petit a est plus infini, c'est-à-dire qu'il y a un état lié sur le point d'apparaître entre ces deux, dans l'interaction entre spin vers le haut et spin vers le bas. Alors, pourquoi c'est un cas intéressant ? Eh bien, parce que c'est un cas qu'on retrouve dans beaucoup de situations dans la nature. Vous pouvez trouver un cas qui est voisin du cas unitaire dans l'interaction entre neutrons, donc en particulier dans les étoiles à neutrons. Dans les étoiles à neutrons, A n'est pas vraiment infini, mais disons qu'il est très grand devant la portée effective des interactions entre neutrons. La portée effective des interactions entre neutrons est de l'ordre de 2,8 femtomètres, et petit a est 6 ou 7 fois plus grand que ça. Donc, c'est pas l'infini, mais c'est quand même très grand devant. Et donc, on est presque dans le cas unitaire. On peut retrouver ce gaz de Fermi unitaire dans les plasmas coagluons, dans certains supraconducteurs à haute température critique. Donc, c'est vraiment un problème qui dépasse largement le cadre des atomes froids et qui est vraiment utile pour un grand nombre de situations physiques. Donc, c'est un système où je n'ai pas d'échelle de longueur liée aux interactions, puisque je prends à infini. Hein, c'est ce que je disais il y a deux minutes. Et c'est un système aussi dans lequel le principe de Pauli joue à plein. C'est-à-dire que ce principe de Pauli va me permettre de simplifier beaucoup l'étude en remarquant la chose suivante, c'est qu'il n'y a pas de longueur caractéristique additionnelle qui va être liée aux effets à trois corps. Si je prenais des bosons polarisés, et si je me dis, bon, j'ai su calculer B2, mais je vais calculer B3, eh bien, si je me mets à résonance, donc je n'ai pas d'état lié à deux corps, mais il y a une infinité d'états liés à trois corps. Si je prends des bosons, c'est un problème qui a été compris pour la première fois par Efimov dans les années 70, 1970. Et donc, ce problème à trois corps est compliqué parce qu'il vient rajouter une autre échelle de longueur dans le problème. Hein, je vous ai dit, à résonance, il n'y a pas d'échelle de longueur pour le problème à deux corps, mais s'il y a pour trois corps, des états liés qui apparaissent, il y a une échelle de longueur qui lui est associée. Et donc, ça vient compliquer beaucoup la situation. Donc, ce n'est pas à ça que je vais m'intéresser. Je vais m'intéresser au gaz de fermion. Donc là, je ne peux pas mettre trois fermions au même endroit parce qu'il y en aurait forcément deux qui auraient le même spin. Et donc, il n'y a pas d'effet à trois corps, au moins si les fermions ont les mêmes masses, ce qui m'intéresse ici. Et donc, je n'ai pas d'effet Efimov. Et le principe de Pauli donc, me simplifie beaucoup la vie. Et du coup, comme je n'ai pas de longueur additionnelle venant de cet effet à trois corps, eh bien, je retrouve ce que je vous disais pour le coefficient B2 tout à l'heure. Ces coefficients Bj que je vais trouver vont être des purs nombres, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir mettre une échelle de longueur en face de lambda, la longueur d'onde thermique, et donc ça va être des purs nombres. Et donc le jeu, aussi bien pour les théoriciens que pour les commentateurs, c'est de calculer ces purs nombres, à calculer avec des chiffres, des 0.325, voilà. Et donc il y a eu de gros efforts théoriques et expérimentaux faits au cours des 20 dernières années. Tu vois, il y a 20 ans, la situation, c'était terra incognita, hein, sur les coefficients B3, B4, B5, et il y a vraiment eu des gros efforts, des gros progrès qui ont été faits au cours des 20 dernières années sur ces coefficients du viriel. Alors, comment est-ce qu'on fait le développement du viriel pour un gaz spinner ? On généralise un petit peu ce qu'on a vu pour un gaz à une composante. Puisque j'ai deux composantes qui sont notées donc spin vers le haut, spin vers le bas, ou plus et moins, j'ai donc deux potentiels chimiques, mu plus et mu moins, et donc ma fonction de partition grand canonique, ça va s'écrire maintenant qu'en fonction des fonctions de partition canoniques avec n plus particules en état plus et n moins particules en état moins, avec les deux fugacités z plus et z moins à la puissance grand n plus et à la puissance grand n moins, et le développement du viriel ou le développement en amas fait donc intervenir des coefficients b indice ij qui font intervenir, donc i particules dans l'état plus, j particules dans l'état moins. Et donc ce sont ces coefficients b et j qu'il s'agit de calculer. Alors, si je ne mets qu'une particule, elle peut être dans l'état de spin plus ou dans l'état de spin moins, dans le premier cas sera b de 1,0, là b0,1, pas de surprise, ça vaut toujours 1, là, c'est ce qu'on avait calculé au tableau ensemble. Si je mets deux particules ensemble, eh bien, j'ai trois possibilités, elles peuvent être toutes les deux de spin plus, à ce moment-là, pas d'interaction pour des fermions polarisés, B2,0, ça va valoir le moins 1 sur 2 puissance 5,5 qu'on a calculé ensemble. Je peux les mettre toutes les deux en état spin moins, même motif, même punition. Et puis, je peux les mettre une dans l'état de spin plus et l'autre dans l'état de spin moins. Et là, elles interagissent. Elles interagissent exactement comme mes deux bosons de tout à l'heure. Donc, je ne vais pas refaire le calcul. Hein. Le coefficient que je dois trouver, c'est le B1,1. Eh bien, c'est le racine de 2 que j'avais trouvé tout à l'heure. Et là, il n'y a pas d'effet de statistique quantique puisque mes particules sont discernables. Donc, on peut le vérifier en comptant bien les états. Voilà, donc là, j'ai mes trois coefficients, enfin, cinq coefficients, si vous voulez, qui interviennent à l'ordre 1 inclus en développement. Alors, je ne vais pas traîner tout le temps des coefficients Z plus et Z moins. Je vais m'intéresser aux gaz équilibrés. Ce sont les expériences que je vous décrirai dans un instant. Donc, je vais supposer que j'ai le même nombre de particules dans l'état plus et dans l'état moins. Donc, mu plus et mu moins, les deux potentiels chimiques sont égaux. Même fugacité, donc je vais la noter Z, cette fugacité. Et donc, à ce moment-là, on peut écrire le grand potentiel en fonction de Z seulement. Encore une fois, Z étant la valeur commune de Z plus et Z moins dans le cas équilibré. Et donc, ce grand potentiel, on le met traditionnellement sous cette forme-là, B1Z plus B2Z2, toujours le KBT sur L cube sur lambda cube. Et puis ici, je mets NS, qui est le nombre d'états de spin, qui vaut donc 2 dans ce cas-là, mais c'est une forme qui pourrait se généraliser au système avec 3, 4 états de spin. Et donc, si j'utilise simplement ce que j'avais à la diapositive précédente, le coefficient B1, ce sera la moyenne de B1,0 et de B0,1, donc ça vaudra toujours 1. Et le coefficient B2, eh bien, c'est la somme B2,0 plus B0,2 plus B1,1, avec le point 1,5 quand on fait bien le calcul. Et ce quotient B2 vaut donc moins 1 sur 2 puissance 5,5 plus 1 sur racine de 2. Voilà. Maintenant, essayons d'aller plus loin. Essayons de regarder le coefficient B3. Alors, le coefficient B3, à résonance, il faut déterminer tous les états propres de ce système à trois particules, où je peux avoir donc deux particules plus et une particule moins, ou deux particules moins et une particule plus. Ces deux situations sont évidemment équivalentes si la masse plus et la masse moins sont égales. Si les masses étaient différentes, ce seraient deux résultats différents. Alors, il y a eu au début toute une série de résultats contradictoires pour calculer ça. Et puis, je dirais, la situation s'est clarifiée grâce à un premier article de Félix Werner et Yvan Castin. Je parle avec Yvan Castin dans la salle, donc vous comprendrez que je suis un petit peu... Je tremble, là. J'espère qu'il ne va pas dire que je me trompe. C'est un calcul dans lequel Félix et Yvan ont calculé quasiment analytiquement le spectre de trois particules dans un piège harmonique. Voilà. Donc, ils avaient en particulier ce qui nous intéresse ici. Et ensuite, deux ans plus tard, un groupe australien a utilisé le résultat de Werner et Castin pour le connecter au cas de trois particules piégées. Donc, ils sont passés du cas d'une particule dans un piège harmonique au cas de particules dans une boîte, si vous voulez, en quelque sorte, en faisant tendre la raideur du potentiel harmonique vers zéro. Et comme ça, ils ont relié les coefficients Bn qu'on cherche donc là c'est B3 qui nous intéresse, mais Bn en général, dans le piège, occion Bn dans la boîte avec cette formule simple, n puissance 3,5 Bn trap, et le résultat auquel ils sont arrivés, donc je vous dis, c'est un pur nombre, hein, donc c'est le suivant, c'est 1 sur 3 puissance 5 demi, donc ça, c'est l'effet de statistique quantique, moins 0, 3, 5, 5, 1, voilà. Et quand vous faites l'opération, vous trouvez moins 0, 29, 10. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, la balle est dans le camp des expérimentateurs. Est-ce que les expériences peuvent donner ça ? Alors, les premières expériences ont été menées pas loin d'ici, dans le groupe de Christophe Salomon, Frédéric Chevy, à l'École normale supérieure, dans les années 2009-2010. C'est une expérience qui était faite sur le lithium-6. Donc, c'était un pseudo-spin 1,5. Hein, c'était deux. Le lithium-6, n'est pas, l'état fondamental n'a pas un spin 1,5, mais on isole, c'est un fermion, et on isole deux états, donc c'est un pseudo-spin 1,5. Il y a une très belle résonance de Feshbach qui permet d'ajuster précisément la longueur de diffusion à infini. Vous avez un piège qui avait une symétrie cylindrique, comme ça, un piège en forme de cigare allongé, typiquement 10 puissance 5 atomes dans le piège. Et ils ont exploré toute une gamme de températures qui allait entre moins 0,15 microkelvin, 150 nanokelvin, jusqu'à un peu plus qu'un microkelvin. Ils exploraient à la fois le régime non dégénéré, enfin faiblement dégénéré, et le régime fortement dégénéré. Nous, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le régime faiblement dégénéré. Hein, c'est le n lambda cube, petit devant 1. Et donc, ils observent ce piège en envoyant un faisceau imageur ici. On regarde l'absorption du faisceau imageur. On fait une image de l'ombre portée par les atomes sur le faisceau imageur sur une caméra. Et donc, on mesure la densité intégrée le long de cet axe d'imagerie ici. Alors, j'ai appelé les axes ici x1, x2, x3, et pas x, y, z. Là encore, pour éviter la confusion, z, c'est la fugacité. Donc, si j'ai à la fois des z qui sont une coordonnée d'espace et puis une fugacité, ça risque d'être troublant. Donc voilà, je les appelle x1, x2, x3. Enfin, vous pouvez l'appeler x, y, z si vous voulez. Il n'y a pas de malice derrière ça. Donc, un résultat absolument remarquable, qui est en fait quelque chose qui a été compris indépendamment par O et Zhu et par Sylvain Assimben dans sa thèse, enfin à l'occasion de sa thèse, c'est le fait que quand vous avez une image comme ça, eh bien, vous pouvez en déduire directement la pression, qui est donc cette quantité qu'on développe pour avoir le développement du viriel ou le développement en amas. Plus précisément, ce qu'il faut faire, c'est prendre la densité, l'image ici. Donc l'image, c'est une image qui est dans le plan x1, x2, pardon, dans le plan x1, x3. On a intégré déjà le long de x2, puisque le faisceau a traversé tout le nuage le long de x2. Donc on a une image dans le plan x1, x3, et on intègre en plus le long de x1. Donc on prend la densité du gaz, qui est une fonction des trois variables x1, x2, x3, et on intègre sur x1, x2. Donc on prend cette image-là, et puis finalement on fait une intégrale le long d'une ligne comme ça, parallèle à la coordonnée x1. On a donc une fonction qui est une fonction simplement de x3, ici. Eh bien ça, c'est directement relié à la pression, au moins dans une approximation qu'on appelle l'approximation de densité locale. Alors pourquoi ça ? Eh bien, c'est assez simple à montrer. Je vais prendre un piège, je vais dire qu'il a la symétrie cylindrique autour de l'axe x3. Donc l'intégrale le long des coordonnées x2, x1, je peux le transformer en intégrale sur les coordonnées angulaires et puis radiales. L'intégrale angulaire donne évidemment 2π, et puis l'intégrale radiale donne, via le jacobien à deux dimensions, un RDR. Et le RDR est important. Par ailleurs, on a une relation thermodynamique qu'on a vue ensemble, qui est que la densité, c'est la dérivée de la pression par rapport au potentiel chimique. Alors, en fait, plus précisément, n plus, la densité du spin plus, c'est la dérivée par rapport au potentiel chimique mu plus, mais quand le gaz est équilibré, mu plus égale mu moins, on a simplement ça. Et maintenant, on va faire donc cette approximation de densité locale. Cette approximation de densité locale, elle consiste à dire que quand je prends le gaz non pas sur l'axe x3, mais un peu éloigné de l'axe, donc quelque part par ici, quoi, un petit peu éloigné de l'axe, ici, ou là, eh bien, c'est un gaz dont les propriétés sont les mêmes qu'un gaz qui aurait la même température et un potentiel chimique mu, qui est le potentiel chimique que j'ai sur l'axe, mu de 0, 0, x3, donc x1 égale 0, x2 égale 0, moins le potentiel V de R de confinement le long de l'axe x2 ou de l'axe x1, le potentiel radial. Donc ça, c'est une approximation de densité locale. C'est valable si la raideur selon cette variable radiale n'est pas trop grande. Et donc, l'intégrale RDR qui est ici, je vais pouvoir la transformer en intégrale sur mu. Parce que comme V2R est harmonique, si je fais une différentielle de ça, d mu, c'est simplement moins oméga 2 RDR. V2R, c'est 1,5 de m oméga 2 R2. Donc le RDR qui est ici, je vais pouvoir le remplacer par un d mu. Donc j'ai une intégrale qui est simplement n, c'est-à-dire dp sur d mu, fois d mu. Donc ça, c'est l'intégrale d'une dérivée, donc c'est la fonction elle-même. Je trouve simplement la valeur de la pression sur l'axe, moins la valeur de la pression très loin de l'axe, mais très loin de l'axe, il n'y a plus d'atomes, donc la pression est nulle, donc le deuxième terme n'apparaît pas ici. Donc n bar de x3, c'est simplement la pression. Donc on a comme ça, gratuitement, si je puis dire, avec une image, la valeur de la pression, et on a la valeur de la pression pour plein de valeurs, puisque c'est mu de x3, mais comme je peux balayer mon x3 sur tout l'axe, là, je peux explorer un grand nombre de valeurs de mu de x3, donc un grand nombre de pressions. Donc voilà un résultat typique, c'est des résultats que j'ai tirés de la thèse de Sylvain Nassimben. Donc ici, vous avez en abscisse la fugacité, ou plus précisément l'inverse de la fugacité. Donc les gaz faiblement dégénérés sont pour les grandes valeurs de zeta, les petites valeurs de z, donc c'est par ici que ça va nous intéresser, on ne va pas s'intéresser à la gauche ici, on va s'intéresser à la droite. Et puis ici, vous avez la pression mesurée en unité de pression idéale, la pression idéale du gaz parfait, qui fait intervenir la densité. Voilà, et on va donc chercher à ajuster au moins dans la partie faiblement dégénérée cette chose-là par un développement du viriel, B1, Z, B2, Z2, etc. Alors, ici, vous avez différents ajustements, mais je voudrais détailler un petit peu comment ça se passe. Donc, pour faire un ajustement, on va supposer que B1 vaut 1. Il ne faut pas garder un ajustement avec 4 paramètres, sinon là, on ne s'en sort pas, il y a trop de bruit, c'est pas bon. Donc, il faut quand même en fixer certains. Donc, l'idée, c'est de fixer les deux premiers, qui sont quand même bien connus depuis longtemps. B1 égale 1, B2 égale le terme de statistique quantique plus le terme d'interaction 1 sur racine de 2. Et ensuite, eh bien, vous tracez ici l'écart entre cette pression mesurée et puis les deux premiers coefficients, Z moins B2, Z2, en fonction de Z cube. Et vous trouvez quelque chose qui est très bien linéaire, au moins au petit z, donc vous en déduisez la valeur du coefficient B3. Et cette valeur est en très bon accord avec ce qui était prédit, ce que je vous rappelle, ce 1 sur 3 puissance 5 demi, moins 0,3551. C'est la prédiction Castin-Werner, utilisée ensuite par le groupe des Australiens. Voilà. Donc B3 semble en bon accord avec tout ce qu'on attend, tout va bien. Et puis ensuite, eh bien, tant qu'on gagne, on joue. Donc, que vaut B4? Donc, voilà la prédiction de B4 fournie par les explantateurs, par le groupe de Christophe Salomon et de Frédéric Chevy. Donc là, on se donne B1, B2, la valeur théorique de B3, que je viens de discuter, et on en déduit une valeur de B4 qui est plus 0,065 avec cette barre d'erreur. Et en 2010, il n'y avait rien à quoi comparer. Donc, c'était un nombre qui était proposé à la communauté. Deux ans plus tard, des expériences faites dans le groupe de Martin Zwierlein, légèrement plus précises, elles affinent cette barre d'erreur, mais elles trouvent exactement la même valeur, 0,065, comme centre des mesures. Voilà. Donc, maintenant, la balle revient dans le camp des théoriciens. C'est toujours agréable d'avoir cet aller-retour. Donc, comment calculer B4? Alors, la B4, c'est une longue histoire, hein, je ne vais pas la raconter en détail. Il y a un très joli article de revue de Endo, qui est sorti il y a deux ans, que j'ai beaucoup utilisé pour les notes, là. Donc je vous renvoie vers cet article si vous voulez avoir des détails. Donc B4, ce n'est pas simple, hein, il y a trois types de diagrammes à regarder. Vous pouvez prendre trois particules de spin haut vers le haut, une particule de spin bas, 2 plus 2, 1 plus 3. Donc celui de gauche et celui de droite sont équivalents à quand les masses sont égales, mais en tout cas, celui du centre n'est pas équivalent aux diagrammes latéraux. Et voilà une série de morceaux choisis de résultats trouvés. Donc, en 2012, un premier résultat qui, lui, a carrément un signe opposé à ce que proposaient les expérimentateurs. En 2015, un premier calcul B4 qui vaut plus 0,03. Vous allez voir que ce n'est pas loin du résultat. En 2016, un premier résultat qu'on peut qualifier vraiment de sérieux par Endo et Castin, donc toujours sous le contrôle de Yvan Castin qui est là. C'est un résultat donc, qui utilise une conjecture non prouvée à ce jour. Alors, cette conjecture, je parle encore une fois sous le contrôle d'Yvan, si j'ai bien compris, il y a besoin de faire des intégrales dans le plan complexe de certaines fonctions, et en particulier, il y a besoin d'intégrer pour une fonction dont les propriétés analytiques ne sont pas complètement connues. On veut utiliser le théorème des résidus, donc on suppose, on fait une hypothèse, cette conjecture, sur la position des pôles à prendre en compte pour le calcul des résidus. Et quand on fait cette conjecture, donc, on trouve B4 égale 0,031. A suivi un calcul par Yann et Blum, qui est un calcul qui fait appel à un piège harmonique qu'on extrapole à densité nulle. Et puis enfin, un calcul numérique qui a confirmé de manière très précise le résultat de Endo et Castin et qui a fait une analyse critique des autres. C'est-à-dire que les autres qui pouvaient trouver des résultats voisins de 0,31, c'était parfois, ils ne trouvaient pas les bons résultats pour celui-ci et celui-là pris indépendamment, mais la somme des deux continuait à trouver le bon résultat. Donc, pour l'instant, je dirais les deux qui semblent tenir la corde, et qui, enfin, c'est plus que semble, ce sont ces deux choses-là. Alors, c'est bien, mais néanmoins, il y a quand même un résultat, un fait significatif, c'est qu'il y a une différence significative avec le résultat de l'ENS qui était et du MIT, qui était à plus 0,65, on est à un facteur 2 quand même. Est-ce que ça se comprend, ça? Ben, ça se comprend. Donc, on peut chercher des explications. Une première explication que propose Endo, ça c'est plutôt pour le calcul de Yann et Blum qui utilisait un piège harmonique. La première explication que propose Endo dans son article de revue, c'est que le passage du cas du piège harmonique, donc de 4 particules dans un piège harmonique aux 4 particules dans une boîte, n'est pas évident parce que c'est donc un calcul qu'on fait quand on fait tendre oméga vers 0, la pulsation du piège harmonique, mais cette variation nous semble-t-il, n'est pas monotone, et du coup, on a vite fait de... Si on ne fait pas l'extrapolation au petit oméga suffisamment loin, ben on se trompe. Une deuxième explication qui, elle, va donner une justification pour la différence théorie-expérience, c'est un calcul de Monte Carlo diagrammatique qui a été fait par Rossi et al., Félix Werner, le dernier auteur, qui est là, je ne sais pas si c'est très lisible, donc là encore, c'est une comparaison n moins n3 de Viriel, en fonction de la fugacité petit z. Et ce qu'ils trouvent, c'est la chose suivante, c'est que quand on fait varier z, donc, ils trouvent, eux, les points bleus qui sont là. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand z est de l'ordre de 1, disons entre 0,6 et puis 1,2, si on se contente de ces deux points-là, et c'est ce qu'on est obligé de faire expérimentalement, parce que quand on va vers des trop petits z, il n'y a plus de signal, eh bien, si on essaie d'extrapoler ces points-ci, on extrapole vers une valeur qui est voisine de 0,06, qui correspond aux points expérimentaux, ici. Mais si on est capable d'aller vers des z beaucoup plus petits, donc il y a beaucoup moins de signal, le gaz est de moins en moins dense, à ce moment-là, à ce moment-là, on obtient quelque chose comme ça, et là, on trouve le 0,03, qui est le résultat, donc Endo-Castin conjecture, et puis vérifié par les calculs numériques de Drucht. Donc, l'explication de la différence entre la théorie, qui est ici, et l'expérience qui est là, c'est peut-être ce souci dans l'interpolation, le fait qu'expérimentalement, c'est très difficile d'aller chercher des points là. Donc, les expérimentateurs ont vraiment utilisé des points qui étaient dans le régime de Z plus petit que 1, mais pas beaucoup plus petit que 1, alors qu'il faudrait chercher des Z de l'ordre de 0,1 pour vraiment retrouver le résultat théorique. Voilà. Donc, voilà la situation maintenant. Donc, il y a encore des choses à faire, ce qui est bien. En conclusion de ce cours, ce qu'on a vu ici, c'est donc un premier lien entre cette physique à petit nombre de particules et la physique macroscopique. On l'a vu dans le cas faiblement dégénéré, et là, je dirais, ce développement en amas est vraiment très, très bien adapté pour ça. Ce qu'on a vu, c'est le rôle essentiel de la longueur de diffusion petit a, pour trouver le rôle dominant à basse température, à la fois pour les coefficients B2 et aussi pour l'énergie, par exemple, quand je vous ai dit qu'on retrouvait un facteur 2 près l'énergie d'un condensat. Ça, évidemment, ce rôle essentiel de la longueur de diffusion, c'est en dehors des effets à trois corps pour les bosons, qui sont des effets subtils sur lesquels on reviendra un petit peu cette année, et probablement dans un cours encore ultérieur. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on pouvait donc développer une approche qui était valable aussi bien hors résonance, A petit devant lambda, qu'à résonance. Et le cas résonant est vraiment un cas intéressant, puisque c'est un cas qui avait été finalement peu étudié avant que la physique des atomes froids apparaisse. Voilà. Eh bien, je m'arrête, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous d'ici un quart d'heure pour le séminaire de Takis. Merci.